Actu SF, les podcasts.
Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur les momies, les fossiles et la thanatopraxie, c'est-à-dire le travail de la mort, le fait de l'artisanat exactement de la mort, le fait de préserver les corps. Alors, pour le corps, la mort n'est pas toujours tout à fait une fin. Si la plupart des créatures vivantes retournent avec la mort dans le grand cycle de la vie et sont absorbées dans d'autres corps et les enrichissent et les nourrissent, ce qui est tout à fait évidemment positif, certaines créatures, délibérément ou non, résistent à ce processus. Il peut s'agir d'animaux fossilisés, de mammouths, par exemple, conservés dans le permafrost, apparemment intacts. Je dis apparemment, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Ou encore, dans le domaine humain, eh bien, on pense évidemment aux momies qui sont préservées au maximum par donc, une thanatopraxie exigeante. De fait, lorsqu'on examine ces corps, puisque c'est aussi de ça qu'il sera question, plutôt que en même temps que de la logique de la préservation, ça va être nous allons examiner la façon dont on peut interpréter ces corps conservés, eh bien, ces corps sont des témoignages d'un passé parfois sans mémoire. Ce sont les seules traces que nous pouvons retrouver et à partir desquelles nous pouvons déployer toute une réflexion. Donc le corps devient le point de départ d'une résurrection du passé. Résurrection évidemment métaphorique la plupart du temps, puisqu'il s'agit de reconstituer dans l'esprit ce qui a entouré ces corps, la façon dont ils ont fonctionné, mais il peut s'agir aussi, dans le domaine de l'imagination, mais pas forcément seulement, il peut s'agir de résurrection littérale, ou du moins de remettre dans le domaine du vivant des choses qu'on croyait mortes. Nous ne parlerons pas forcément de Cthulhu et des grands anciens pour l'instant, mais pour des exemples un tout petit peu plus plausibles, on peut citer le maintien in vivo de certains êtres anciens, comme dans Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, ou dans une version un tout petit peu plus technoscientifique, la logique de la résurrection des dinosaures dans la franchise à succès issue du roman de Michael Crichton, Jurassic Park. De fait, nous pouvons nous poser la question de savoir si des objets venus du passé permettent de réinjecter des corps dans le réel. Alors, avant de présenter tous les enjeux de la table ronde, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Steven Erickson, qui est... nous solliciterons ici sa formation d'archéologue et de paléontologue, d'anthropologue, pardon. Archéologue, voilà, surtout archéologue. C'est aussi et surtout à titre d'écrivain que Steven Erickson est parmi nous, puisqu'il est l'auteur d'un grand cycle de fantasy qui s'appelle en français le Livre des Maudits, The Book of the Fallen, qui a commencé à être traduit. Vous verrez normalement défiler parmi les couvertures derrière nous les couvertures certains de ses ouvrages. Et cette œuvre donc multiprimée commence seulement à être traduite en français. Je vous invite à la découvrir, bien sûr. À gauche, Karim Sitayeb, qui est chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes et qui travaille surtout sur les cellules souches totipotentes induites humaines. Il nous en dira peut-être quelque chose si c'est pertinent, nous verrons. Et surtout, il travaille à des questions liées aux maladies du foie, dyslipidémie et l'hypotoxicité éventuellement. Je vais avoir du mal à le dire, mais il étudie l'hypercholestérolémie familiale à partir de cellules de patients ayant une atteinte génétique. Donc ADN et maladie seront ici convoqués d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous entendrons parler. Et enfin, notre dernier invité aujourd'hui est Jean-Sébastien Steyer, donc paléontologue au CNRS et au Muséum de Paris. Il a écrit de nombreux ouvrages seul ou en collaboration qui sont justement des qui ont partie de ces résurrections ou de ces anticipations autour de différentes créatures, donc la Terre avant les dinosaures, demain les animaux du futur, combien de doigts un extraterrestre, alors ça on pourra lui poser la question éventuellement là-dessus, puisque nous parlerons aussi... éventuellement, si le temps nous le permet, et puis si la conversation va vers ces choses-là, d'exobiologie dans une perspective d'exo-archéologie ou d'exo-paléontologie. Mais dans un premier temps, nous allons partir de l'existant. Comprendre exactement ce qui est préservé quand des corps sont momifiés, fossilisés, congelés éventuellement, et nous interrogerons sur ce qu'ils peuvent livrer sur le passé. Dans un deuxième temps, alors j'ai pour habitude de donner la parole au public au fil des séances, donc vous pourrez intervenir lorsque nous aurons fait un petit peu le tour de cette première question, mais dans un deuxième temps, nous parlerons de façon un peu plus spéculative, c'est-à-dire que nous réfléchirons à ce que les techniques d'analyse du passé pourraient permettre de comprendre en faisant face à des situations nouvelles du type de celles qui sont développées dans la science-fiction, résurrection de créatures plus ou moins dangereuses, découverte de fossiles extraterrestres, ce type de choses. Alors, pour commencer, donc, partons de l'état de l'art, ou du moins de ce que nous pouvons en dire dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire quelles sont les techniques, quelles sont les découvertes qui sont applicables, extensibles à la logique de la fossilisation, de la momification. Et donc, pour commencer, pour présenter un peu les choses, j'aimerais que, vous pouvez bien sûr prendre la parole assez librement, nous commencer par nous indiquer quelles sont les manières dont un corps peut être préservé et qu'est-ce que peut signifier cette préservation. De quelle manière un corps peut être préservé artificiellement ou naturellement dans l'état actuel de nos connaissances. Voilà.
Donc, naturellement, artificiellement, c'est pas trop mon domaine, donc je me sens pas trop légitime de parler d'une conservation artificielle. Par contre, dans la nature, la conservation des corps morts, et c'est un plaisir de parler de mort aujourd'hui puisque c'est là tout ça en plus, donc la préservation existe, c'est ce qu'on appelle la fossilisation. Alors naturellement, il y a plusieurs types de fossilisation, il n'y a pas non plus une infinité de façons de se fossiliser, mais vous avez différents types de préservation. Quand vous mourrez, votre corps, en imaginant que vous soyez un dinosaure par exemple, votre corps, il va d'abord être étalé sur le sol, votre dépouille va être ensuite grignotée par des nécrophages, éventuellement elle peut être, cette dépouille, transportée sur des distances plus ou moins longues par une rivière ou un courant ou une pluie ou un épisode de crue. Et la probabilité pour que votre dépouille soit ensevelie par des sédiments est très faible, en fait. Mais ça existe, heureusement pour moi d'ailleurs, sinon je serais au chômage technique en tant que paléontologue, ça existe dans la nature. Et cette probabilité-là nous montre que ce que l'on apprend sur les fossiles aujourd'hui, en termes de biodiversité de l'époque, c'est une infime fenêtre ouverte sur justement ce qui se passait en termes de vie, d'interaction d'espèces et d'évolution au cours des temps géologiques. Donc en gros, pour nous, paléontologues, on travaille sur les millions d'années, on va dire que c'est notre échelle de temps. La fossilisation, c'est une sorte de pétrification, pour faire simple. C'est-à-dire que votre dépouille, une fois qu'elle va être ensevelie, en fait, par du sable ou de l'argile, la matière organique de votre corps va partir lentement dans cette espèce de sol qui vous englobe, et la matière minérale du sol va, quasiment atome par atome, remplacer votre matière organique. Donc évidemment, ce qui se fossilise la plupart du temps, ce sont les parties les plus dures des corps, des organismes, c'est-à-dire les squelettes, interne si vous êtes un vertébré comme vous et moi, externe si vous êtes un arthropode avec une carapace, avec un exosquelette, mais les plantes aussi peuvent se fossiliser, les traces de pas, les traces d'activité peuvent se fossiliser, les excréments peuvent se fossiliser et livrer des informations importantes sur justement cette évolution.
Steven?
Okay. Is this working?
Yes.
Can you people hear me? Yeah, okay. Well, of course, in archaeology, when you run across interred corpses, bodies, there's a broad context to a broad range of actually preservation. And of course, for an archaeologist, we're actually interested in the relationship between that body and the culture that basically interred that body. So I'll give you a brief story. Southwestern Saskatchewan in Canada is a very, very fecund and rich in agricultural region, producing wheat primarily. There is a farmhouse just to the northwest of Swift Current, Saskatchewan, where the farm has actually gone under countless times. So in other words, the business fails over and over again. It's been going on for years. And the last people who were living there, the marriage broke up and the husband was left behind. And on a weekend, a dust storm rolled in and passed right through the region and right through past his farm. And he got up the next morning and he looked out into his backyard and he saw nothing but bones because there had been a burial ground right in the backyard of their house. And this was an archaic period burial ground, so 4,000 to 6,000 years old. And so you had a fetal burial style of all the males, and you had accompanying them were all their dogs, because this is before the horse arrived in North America. So only the dogs and only the men. And down off the edge of the cliff were where the women and children were unceremoniously tossed. So in other words, you can take a look at what you've seen archaeologically, and you can extrapolate what the culture was, some aspects of that culture and that human behavior, just on the basis of what was found there. And when I visited the site, I was working with a Plains Cree, so a native Indian, and I noticed he was following behind me everywhere I went. And finally I turned around to him and I said, well, what are you doing? He says, well, you step first, because spiritually this is not a good place to be. So that's the story.
Thank you. Karim.
Alors, moi, j'apporterais plutôt une approche moléculaire. En fait, comme tu l'as énoncé avant avec le Monde Perdu et Jurassic Park, on a maintenant une évolution des technologies qui nous permet d'accéder à des informations précises grâce à l'ADN et donc aux techniques de séquençage, aux nouvelles techniques de séquençage. Et il y a aussi énormément d'efforts qui ont été faits pour préserver la pureté, la qualité de l'ADN au moment où on retrouve des échantillons anciens pour qu'il n'y ait pas de contamination par la quantité massive d'ADN qu'on retrouve partout sur nous ou dans l'air. Et donc l'évolution de ces techniques nous permet maintenant d'étudier spécifiquement ces informations précieuses pour commencer un peu à décortiquer, donc soit dans des espèces particulières, donc ça a été énoncé le mammouth laineux, ou même chez Néandertal, des informations qui peuvent avoir une répercussion sur notre évolution ou même le développement de certaines pathologies. On pourra parler après sur les méthodes d'analyse.
Justement, quelles sont les méthodes qui sont employées, les différentes techniques qui sont mises à contribution pour étudier ces corps? Karim, peut-être enchaîner sur là-dessus et puis poursuivons.
Donc si on reste sur le côté de l'ADN, donc maintenant on arrive à avoir retrouvé énormément d'informations grâce à cette nouvelle technologie. Et donc je vais vous donner un premier exemple, donc le mammouth laineux, pour lequel on a réussi à séquencer complètement l'ADN de cet animal qui est maintenant disparu. On se rend compte qu'on a à peu près 99% de l'ADN qui est équivalent à celui des éléphants. Donc il y a 1% de différence pour lesquels l'imaginaire humain verrait bien la possibilité de réintroduire le mammouth laineux dans notre monde contemporain. Donc évidemment, ça ne se fera pas tout de suite et il y a plusieurs contraintes, dont la taille de l'animal qui devra porter le fœtus, notamment, et puis je ne parle pas de toutes les contraintes liées à l'introduction de l'ADN et de la, dans une structure suffisamment cohérente pour que le développement se fasse normalement. Mais ça permet de tirer des informations sur notamment la capacité qu'a ces animaux à résister à des froids, des températures extrêmes. Et donc, il y a notamment des études qui se font sur donc ce 1% entre les éléphants et le mammouth laineux comprend des séquences qui codent pour des protéines dans l'hémoglobine, donc qui permet la fixation de l'oxygène et qui subit une adaptation pour en termes de environnemental pour préserver la survie de l'animal dans ces températures extrêmes. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples aussi, on ne pourra pas tout citer. Chez l'homme en particulier, les analyses génétiques permettent notamment de mettre en évidence la présence de séquences ADN néandertales chez l'homme moderne, et donc surtout au niveau des individus européens. Et donc on sait maintenant qu'on a à peu près, à peu près 40% du génome qui est encore présent dans l'humanité contemporaine. Et donc, on connaît la séquence de Néandertal à travers des échantillons qui ont été trouvés et qui ont pu permettre l'extraction précise de cet ADN. Et on sait retrouver certaines de ces séquences chez des individus existants. Et c'est là que le côté cellule souche intervient. En fait, on peut générer des cellules souches à partir d'individus, donc en reprogrammant des cellules de la peau ou d'autre chose pour les faire revenir à l'état cellule souche. Et ces cellules peuvent se différencier en différents types cellulaires, théoriquement tous les types de cellules du corps humain. Et donc, on peut récupérer des cellules souches à partir de personnes qui ont différents types de séquences ADN proches ou identiques à ce qu'on retrouve chez Néandertal. Et à travers ces cellules souches, on peut manipuler le génome pour introduire des mutations dans des endroits précis impliqués, par exemple, dans le développement cérébral ou dans des pathologies hépatiques. In vitro, au laboratoire, faire développer ces cellules souches en différents types d'organes, ce qu'on appelle des organoïdes. Donc, c'est des petites structures qui sont de quelques millimètres en taille, mais qui reproduisent les étapes de développement primaire d'un organe ou d'un autre, notamment du cerveau. Donc, ça a été publié, le fait de pouvoir réaliser des organoïdes de cerveau humain, et donc de le faire à travers des cellules qui auraient des mutations sur ces séquences néandertales, et de voir les effets sur le développement de ces organoïdes de cerveau pour voir un peu la différence qu'il y a entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal. Et donc, c'est des travaux qui sont actuellement en cours au Max Planck à Leipzig.
Donc, une sorte d'archéo-séquençage d'ADN, quoi.
Ouais.
Alors, maintenant, on a vu pour la biologie, quelle technique mettriez-vous en avant pour faire parler les corps, soit en paléontologie, soit en archéologie ? Quelle méthode, quelles approches ?
Alors, en paléontologie, dans 99% des cas, en fait, il n'y a plus de matière organique. Hein, il reste donc quasiment que de la matière minérale. Et on a affaire au squelette. Alors, les 1% de matière organique, c'est justement la paléogénétique, qui est une discipline à part entière et qui s'intéresse à d'autres types de fossilisation. On y reviendra, enfin, on en parle déjà, comme la pseudo-congélation de la faune quaternaire, mammouth et autres, ou la conservation dans l'ambre. Hein, à l'origine d'ailleurs de la bonne idée de Crichton, dans Jurassic Park, puisqu'il est question de prendre l'ADN d'un dinosaure contenu dans le sang dans l'abdomen d'un moustique lui-même contenu dans de l'ambre. Hein, l'ambre étant une résine souvent de conifères, mais pas obligatoirement de conifères, qui coule ou qui tombe en fait le long du tronc de l'arbre, et en coulant, la résine en question, c'est une sorte de glu, va inclure, englober en fait les petites formes de vie qui peuvent coloniser ou s'installer en fait sur le tronc de l'arbre ou dans l'arbre. Et donc ces conservations exceptionnelles sont extrêmement rares en paléontologie. Dans 99% des cas, on a des squelettes uniquement avec de la matière minérale. Donc comment faire parler en fait les fossiles minéraux entre guillemets? Là, on a des techniques, alors non pas de génétique bien sûr, mais des techniques de plus en plus modernes comme la microtomographie à rayon X. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous prenez votre fossile fraîchement dégagé de sa gangue rocheuse bien sûr, et vous le passez dans une machine qui va prendre des radios du fossile tout autour de son plus grand axe, et vous allez obtenir en fait une radio 3D du fossile qui va vous permettre de pénétrer à l'intérieur de la microstructure osseuse. Alors la microstructure osseuse, c'est la constitution en fait intime entre guillemets de vos os, vertèbres, fémurs, tibias, etc. Et ça, ce jeu de données-là, nous renseigne beaucoup sur l'évolution des espèces, mais aussi la croissance de l'espèce qui s'est fossilisée il y a tant de millions d'années, parce que souvent, enfin, dans la plupart des cas, quand vous êtes en présence de vertébrés, donc d'animaux avec des vertèbres et éventuellement des membres, des pattes, vous avez les os longs, des nageoires ou des pattes, donc, qui enregistrent des cycles un petit peu comme les cernes des arbres quand on fait de la dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on peut compter l'âge en fait de l'arbre. Bon, il est coupé, c'est dommage, mais l'âge qu'avait l'arbre avant de le couper, quoi. Alors nous, on ne coupe pas des arbres, on coupe des fossiles, ou alors on les scanne en fait. Quand on fait des coupes submillimétriques. Et on observe en fait ces lignes d'arrêt de croissance qui nous indiquent non seulement éventuellement l'âge individuel du fossile il y a 65 ou 300 millions d'années, à quel âge il est mort, mais aussi, alors peut-être pas où il allait passer ses week-ends, mais le rythme du développement en fonction de la distance entre des lignes d'arrêt de croissance. On fait parler aussi les fossiles grâce à leurs dents, hein, quand les dents sont préservées, les dents chez les vertébrés sont les parties les plus dures de l'organisme, en fait, encore plus dures que les ossements. Donc ce sont des objets fossiles très importants pour nous. Les dents, bien sûr, renseignent sur le régime alimentaire, hein, la denture ou la dentition. Si vous avez que des incisives, vous êtes plutôt à tendance carnivore. Si vous avez des dents plates, épaisse avec des petites crénelures, vous êtes plutôt à tendance herbivore. Si vous avez plusieurs sortes de dents, plusieurs types de dents comme nous, vous êtes plutôt à tendance omnivore, etc. Mais on va au-delà de ça, parce que en fonction du type de nourriture que vous mâchez, les dents vont enregistrer des usures, qui vont vous indiquer en fonction de la profondeur, de la forme des stries, elles vont permettre de vous préciser en fait le régime alimentaire. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez les herbivores pour savoir si c'était des herbivores qui se nourrissaient de végétaux coriaces ou non, que l'on corrèle en fait avec l'environnement. Hein, si vous êtes dans un environnement ouvert, voire même subdésertique, votre apport alimentaire, il va être plutôt de type végétaux coriaces, hein, pour des raisons hydriques, bien sûr. Donc, à partir d'une dent, on est capable de reconstituer en fait le régime alimentaire, mais aussi l'endroit où vous viviez à l'époque.
Stephen, pour l'archéologie.
Well, there's a lot of crossover, especially with analyzing teeth to determine where an individual grew up, their primary food sources. Instances of malnutrition and high stress, they all appear in the dentition of an individual. There's also, one has to take into account that there's a sample bias when it comes to archaeology, where if you were to go back in time and you're looking at materials, skeletal materials recovered from caves, you would probably assume that humanity, Neanderthals, Denisovans, Homo antecessor, any of these things, we're primarily cave dwellers. But the sample bias is, you're not going to find much in the way of organic materials left outside a cave. So sometimes you can end up interpreting wrongly on the basis of where you find your skeletal material. At the same time, I've worked on sites where I was excavating an anaerobic site, which means no oxygen in flood silts. And we were actually, in that case, we ended up excavating an officer's latrine at a Hudson's Bay fort in Winnipeg. And so the latrine itself was probably 250 years old, not very old, especially by European standards, but old by North American standards. And the preservation was such that the Center of Disease Control had to come in to determine that we weren't releasing smallpox virus. And at the same time, the preservation was such that you could read the newspapers that the officers wiped their bums with. So preservation is very much a case of a hit and miss. Open burials quite often don't leave much behind. And even if you do find skeletal material, quite often the DNA is corrupted by water flow and various other organic movement through the soils. So even extracting DNA from relatively recent skeletal materials can be a bit problematic. But I'm sure you know more about that than I do. So.
Peut-être, j'aimerais donner la possibilité au public de poser une question ou deux s'il y en a, avant qu'on passe plutôt à la partie un peu plus spéculative, même si on va continuer à parler de l'état réel de la science. Mais est-ce qu'à ce stade, il y a une ou deux questions, des gens qui voudraient des précisions ou... Non, nous sommes assez complets. Bon. Ah, une question ici. Est-ce qu'on a un micro disponible ? Oui, il est en train d'arriver. Voilà, ici. Si vous voulez bien lever la main pour qu'on vous voit, voilà. Merci.
Oui, donc vous avez parlé pour l'instant du coup des conservations, on va dire, accidentelles ou environnementales. Et on n'a pas du tout évoqué le cas de la conservation, surtout dans le cas de l'archéologie, je suppose, de la conservation qui aurait été volontaire et par une culture en partie, et même si on connaît les momies et que ça fait partie du titre de la conf, il y en a peut-être d'autres, et d'autres moyens qui seraient moins connus, je ne sais pas.
Oui, alors quels sont les moyens artificiels que vous connaissez de préserver des corps ?
Alors, il y a le froid.
La cryogénisation, oui.
Voilà.
Et alors, est-ce que ça préserve bien, ça ? Est-ce que les tissus sont préservés ? Qu'est-ce qu'on appelle préservé finalement dans ces perspectives-là ? Parce que quand on parle de la thanatopraxie des momies, on parle tout de même de techniques qui préservent un maximum, je dirais, beaucoup plus que la taxidermie. La taxidermie, c'est du maquillage, enfin, on fabrique un mannequin. Hein. Par contre, effectivement, la thanatopraxie, c'est quelque chose dans lequel on conserve un maximum de choses. Mais tout de même, une momie qui se réveille, une des raisons pour lesquelles elle est assez fâchée, c'est qu'elle n'a plus de cerveau. Hein. On lui a enlevé le cerveau par les narines. Bon. Donc, quand on parle de préservation, il y a tout de même un certain nombre de choses qui ne sont pas préservées. Alors, si je me souviens bien, les Égyptiens récupéraient un maximum d'organes pour les mettre dans des canopes, des petits vases, pour permettre aux défunts de se reconstituer une fois qu'ils seraient relevés par les dieux. Bon, je suis approximatif sur ma culture égyptologique. Mais le cerveau, en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Et donc, quand on parle de cryogénisation, quand on parle de l'effet du froid, quel degré de préservation peut-on espérer d'une cryogénisation, qu'elle soit naturelle ou artificielle ? Est-ce qu'il n'y a pas des dégâts irrémédiables ?
Well, I mean... One of the things regarding megafauna, like the mammoths, etc., is they do appear to have been flash frozen, quite often standing up with green plant in their mouth. So something catastrophic clearly took out these animals. And so I think the speed at which the organic material is frozen is crucial in terms of preserving the DNA within those creatures. I've heard stories about people eating mammoth steaks. I don't think I would do that, but apparently it's been done. So again, so cryogenic, you would have to freeze very, very quickly.
Oui, l'un des défauts majeurs de la congélation, c'est le fait que ça touche l'eau qui, quand elle change d'état, change de volume. Ça détruit le tissu. Donc c'est ça qui, donc c'est pour ça que le flash frozen, la congélation rapide, généralement, préserve mieux le tissu qu'une congélation lente. Et nous, par exemple, en biologie, on substitue l'eau par des éléments qui ne vont pas se déformer au moment de la congélation et qui préservent les cellules, qu'on peut ensuite faire revenir à la vie.
En sciences naturelles, en plus en général, pour les organes, en fait, on utilise ou on utilisait encore au muséum jusqu'à récemment du formol. Bon, maintenant, il est remplacé par de l'alcool. Et ça fait partie de certaines techniques en fait, de préservation. Finalement, on pourrait définir la préservation comme la conservation à terme, alors moyen, court ou long terme, de structures morphologiques vivantes autrefois.
Pour rebondir sur les momies, j'ai eu la chance de voir au British Museum une exposition sur certaines momies pour lesquelles des techniques maintenant d'imagerie permettent d'évaluer, par exemple, donc effectivement il n'y a pas de cerveau, tous les organes ne sont pas toujours là, mais par exemple l'arbre vasculaire, l'état de l'arbre vasculaire, et se rendre compte que par exemple des momies avaient des plaques d'athérome. Donc c'est des plaques liées à l'accumulation de cholestérol, donc c'est un peu mon domaine. Il y a d'autres observations qui ont permis de voir que, à cette époque, apparemment, une des premières causes de mortalité était aussi des affections au niveau dentaire. L'hygiène dentaire n'étant pas excellente, énormément d'affections laissent des traces qu'on peut observer par imagerie et qu'on peut même ensuite reconstruire en impression 3D pour vraiment avoir le motif sous les yeux et pouvoir étudier ça.
Et bien sûr, il y a aussi les techniques utilisées, la thanatopraxie, c'est aussi actuellement tout ce qui est la préparation du corps avant l'enterrement, lorsqu'il y a présentation d'un corps. Ici, on ne parle pas d'aller, pour le coup, d'aller piller pour l'instant de cimetière, du moins pas encore. Y a-t-il une autre question sur l'aspect technique avant qu'on passe à la spéculation ? Pas spéculation, on va voir.
Je rebondis sur les pilleurs de cimetières qui existaient en fait au Moyen-Âge, voire même avant, et c'était finalement les premiers proto-médecins qui avaient besoin de spécimens en fait pour études et dissections. Et vu que c'était interdit, notamment par le clergé, ils allaient en douce déterrer certains cadavres pour pouvoir en fait mieux comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de notre organisme.
Oui, une autre manière de faire parler un corps, finalement, l'autopsie. Hein. Enfin, ce n'est pas tellement notre sujet, là, mais effectivement, ça en fait partie. Alors, justement, donc, on a déjà commencé un petit peu à aborder un peu ces questions-là, mais est-ce que vous voulez apporter d'autres éléments sur la question dont on a parlé sur la logique de Jurassic Park, comment est-ce qu'il serait envisageable de faire rejaillir des êtres ? Déjà, est-ce qu'il est possible est-ce que des choses préserver, conserver, et je dis des êtres, y compris au niveau moléculaire ou vraiment très, très, très bas dans la chaîne du vivant, est-ce qu'il y a déjà des choses qui reprennent vie naturellement, c'est-à-dire des choses qui sont congelées ou prises dans une substance quelconque, mais est-ce qu'il est possible, est-ce que des choses peuvent s'arrêter, repartir, et à partir de quel degré de complexité ça n'est plus envisageable ? Donc ça, c'est un aspect de la question dont vous pouvez vous emparer, et du coup, est-ce qu'on peut voir rejaillir des virus anciens qui vont faire des pandémies ? Ça fait partie des logiques qu'on peut, des questions qu'on peut poser dans un thriller. Et deuxième aspect de la question, dans quelle mesure est-ce qu'est-ce qu'on peut faire revenir éventuellement et quelles seraient les avancées techniques nécessaires dans le futur pour qu'on puisse discuter avec un Néandertal ? Est-ce que ça aurait un sens qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Alors, évidemment, il y a la machine à voyager dans le temps, mais ça ne va pas être notre instrument de préférence, même si pour l'archéologie, ce serait un bon instrument.
Well, I would approach it more from the ethical point of view. I know that the passenger pigeon is probably the closest species to be reintroduced. And I think it's probably maybe only two generations away. And of course, then you have to think in terms of, well, how much of the behavior of this new creature, reintroduced extinct creature, is learned behavior and how much is instinctive behavior. So will the, I mean, passenger pigeons probably mostly hardwired in terms of their behavior. But I guess, more complex, larger animals, yes, I wouldn't be surprised if we get mammoths fairly soon, but they will be the offspring of Indian elephants, which is the closest relative. And then the question then becomes, well, if you reintroduce them into the environment, can the environment sustain the species? Because we know that there's been massive climactic change in the regions where the mammoths are. And I know there's the Russian millionaire who's trying to create a Pleistocene park in Siberia and has already begun reintroducing things like caribou, muskox, and I think bison have come across from Canada. And of course, what all of these things do is that they actually recondition the soil. And so he's trying to basically recreate a Pleistocene environment through these animals. But in terms of their behaviors, there's no way to predict whether they are capable of falling back into the environmental niche that they existed in to begin with. And of course, if you go further back, things like Jurassic Park, that was one of the things when I watched the films, I always kept wondering was, well, actually, these things were alive at a time when the oxygen levels were much higher in the atmosphere. And these are large, large creatures. To the extent to which they could actually survive here is highly questionable, I think. Not only that, the environment, like the oceans, would have been full of sea life, of fish and the likes. So your pterosaurs could easily survive, your mosasaurs could survive 65 million years ago. I don't know if they could do it now.
Oui, c'est tout le pan de la désextinction, en fait, c'est-à-dire comment re-switcher, enfin réallumer, faire revivre en fait des espèces éteintes. Alors en ce qui concerne les dinosaures, vous avez plusieurs manières finalement d'en voir et d'en observer, d'en contempler en fait vivant aujourd'hui. Vous pouvez vous poser devant une volière d'oiseaux et contempler des dinosaures, puisque les oiseaux aujourd'hui sont finalement, en termes de phylogénie, c'est-à-dire d'études de relations de parenté, des dinosaures à plumes. Alors, certes, un peu modifiés, il n'y a plus de vertèbres caudales, c'est-à-dire il n'y a plus de queue, il y a encore des griffes au niveau des membres postérieurs, il y a les membres antérieurs qui sont transformés en ailes avec fusion partielle des doigts, il y a disparition des dents et apparition donc du bec. D'ailleurs, le bec est apparu plusieurs fois au cours de l'évolution. On a parlé de ptérosaures, on peut parler aussi d'autres formes de vertébrés. Et donc finalement, contempler des dinosaures aujourd'hui, c'est possible. En termes de phylogénie, puisque le T-Rex a plus de gènes en commun avec le canari qu'avec le diplodocus. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, vous pouvez essayer de reconstituer de l'ADN de dinosaures à partir de conservations exceptionnelles comme la bonne idée, justement, de Crichton dans Jurassic Park. Alors, dans Jurassic Park, la science-fiction s'empare, bien sûr, de la reconstitution de ces mondes perdus. Le problème, c'est qu'il nous explique que l'ADN n'est pas complet. Et il remplace de l'ADN manquant, les parties manquantes de l'ADN dinosaurienne, par de l'ADN de grenouille. Bon, ça, c'est pas viable. On est dans la science-fiction, bien sûr. Hein. Jurassic Park n'est pas un documentaire scientifique sur les dinosaures ou sur la désextinction. Mais c'est la partie vraiment fictive qui fait un peu tâche au niveau de la narration pour nous. Mais bon, c'est de la manipulation génétique. Et puis, autre type de manipulation génétique, et ça c'est un projet plus ou moins en l'air de mon collègue Jack Horner, qui est un paléontologue américain. Il travaille dans le Montana. C'est le conseiller scientifique de Spielberg qui doit un petit peu déteindre, je pense, sur Jack Horner, qui a un projet de réactivation de gènes ancestraux dinosauriens, présents encore, pour certains bien sûr, chez les oiseaux actuels. Alors ça, c'est réel, ça existe en ce qui concerne la génétique. Il y a des collègues généticiens qui sont arrivés à greffer un mésenchyme dentaire de lézard, enfin de reptile, sur un embryon d'oiseau, et à partir de beaucoup d'échecs, mais un certain petit pourcentage de réussite, le poussin qui naît, alors c'est pas un dinosaure évidemment, hein, mais il présente en fait un bec corné. C'est pas la réapparition non plus de vraies dents, mais on a une réactivation d'un gène en fait qui est latent, qui est encore présent chez les oiseaux. Donc Jack Horner se dit pourquoi ne pas réactiver l'ensemble des gènes dinosauriens encore présents, comme éventuellement la présence de segments postérieurs à l'origine de la queue chez les dinosaures.
They used a chicken for that, didn't they?
Oui, tout à fait.
Yeah, I've seen that. It's pretty wild.
It's called, c'est le projet Chickenosaurus de Jack Horner. Bon, alors, est-ce que... Il y a deux problèmes, en fait, à ce projet-là, évidemment. C'est le poulet qui va sortir en fin de chaîne de cette manipulation génétique ne peut pas ressembler à un dinosaure, puisqu'on va réactiver, en fait, certains caractères et non pas la mosaïque complète de caractères dinosauriens. Ça, c'est une chose. Et puis, le deuxième problème, c'est que quand vous touchez souvent à un gène, par effet boule de neige ou par effet cascade, vous touchez à une famille entière de gènes qu'on appelle des gènes architectes ou des homéobox, qui vont chambouler, en fait, beaucoup d'autres choses dans l'organisme. Je pense, par exemple, à la génétique de la digitation, l'apparition des doigts, est à l'origine de certains gènes. Il n'y a pas un gène à l'origine des doigts, hein, chez les tétrapodes, dont un grand groupe auquel on appartient, en fait. C'est un groupe de gènes qui construit aussi, en termes de morphogénèse, la face, enfin le visage, une partie du crâne et du système urogénital. Donc si vous touchez à ce gène-là pour avoir... Allez, 8 doigts, comme c'était le cas des premiers tétrapodes il y a 370 millions d'années, parce que vous voulez être meilleur au piano, vous voulez être un peu plus puissant quand vous donnez une baffe à quelqu'un, avec 8 doigts, pour être augmenté, vous allez indéniablement toucher, en fait, à toute la construction crânio-faciale de votre sujet et du système urogénital. Donc, au final, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler tout ça.
Du coup, j'ai une question par curiosité. On a une idée du pourcentage de mosaïcisme ou de gènes ancestraux chez le poulet ou chez le canard qui vient de l'époque dinosaure?
Je pense assez peu. Ça doit être autour, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est autour de 10% à peine.
Alors, sans aller dans le très très loin dans le passé, il y a maintenant aussi des expériences qui se font pour essayer de sauver des espèces qui sont en voie de disparition. Notamment, il y a un type de rhinocéros pour lequel maintenant des animaux, donc des femelles porteuses, vont permettre de perpétuer l'espèce qui est en cours, où je crois que la dernière femelle est décédée, donc il n'y a plus de possibilité qu'elle puisse subvenir à sa survie par elle-même. Donc en manipulant, et notamment grâce à la génération de cellules souches à partir de ces espèces en voie de disparition, on peut permettre de les préserver dans leur continuité.
Alors, avant, dans le temps qui nous reste, j'aimerais passer à un deuxième chapitre un peu spéculatif. Allons un peu plus loin. Donc, vous embarquez dans un vaisseau spatial, vous arrivez sur Mars dans des conditions de survie acceptables pour vous, et on vous présente un environnement préservé dont la vie a été trouvée sur Mars. Quelles sont les méthodes employées? Que va signifier pour vous une logique d'exoarchéologie, d'exobiologie? Quels vont être les marqueurs qui vont justement faire qu'on va aller plutôt vers une logique archéologique? Quels vont être les indices qui vont permettre d'identifier une production qui va être une production artificielles, intellectuelles, et quels vont être les protocoles employés du côté d'une exopaléontologie, d'une exobiologie. Qu'est-ce que vous allez mobiliser de ce point de vue-là, et dans quelle mesure est-ce que ça va différer de ce qu'on fait sur Terre? Évidemment, ça va être fondé sur ce qu'on fait sur Terre, mais est-ce qu'il y a des perspectives supplémentaires à l'idée qu'on affronte quelque chose dans un environnement qui n'est pas le nôtre et par rapport à une chaîne de vie qui, a priori, est déconnectée de la nôtre?
Well, I'm going to go out on a limb here, and I think there's life all over Mars. But I also suspect that it's probably DNA-based, and we share a lot with it. But I hold to the idea of panspermia, so I think basically all the building blocks of life, including viral forms of life, are actually floating around in space right now, and we're annually bombarded with more life forms on a regular basis. And so archaeologically, I would approach it the same way. Any sentient species is probably going to be a social species, so it's going to need to organize its community. And so I would, as a surveyor, I would be looking for the same things I would look for here. And I'll just leave it at that. Go from there.
De mon point de vue, la vie comme on la connaît est basée sur de l'ADN qui est une bibliothèque d'informations qui va permettre de structurer l'émergence d'un être vivant. Et donc ça va passer par, on va juste en discuter, par des médiateurs qui sont les ARN, qui vont donner des protéines, et en plus de ça, on a besoin de sucre et de lipides. Donc la première chose, c'est de voir est-ce qu'il y a ces éléments. Pour avoir, en fait, c'est une espèce d'étude comparative par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc si il y a ces éléments, c'est déjà plus facile pour commencer à décrypter, comprendre comment ça marche, comment ça évolue. Si c'est pas le cas, par quel vecteur l'ADN va permettre de générer un organisme? Maintenant, l'autre question qui est encore plus métaphysique, c'est est-ce que l'information est contenue dans un équivalent d'ADN? Est-ce que s'il y a un ADN, est-ce qu'il va avoir les mêmes bases qui sont ATGC? Est-ce qu'on va retrouver ces mêmes bases dans cette entité extraterrestre? Est-ce qu'on a plus de bases, moins de bases? Donc plus de bases a été évoqué par exemple dans le cinquième élément. Est-ce que les bases vont être complètement différentes? Auquel cas, comment l'information est encodée? Donc en fait, juste de mon point de vue, regardez... comment l'information est encodée va déjà nous en dire énormément sur vers quoi notre recherche devra aller pour pouvoir comprendre et le taux de différence qu'on peut voir avec notre espèce et notre monde comme on le connaît.
Alors des fouilles paléontologiques sur Mars, moi j'y vais direct. Et je ferai exactement, j'utiliserai les mêmes méthodologies qu'on a sur Terre. C'est-à-dire que je zoomerai d'abord en fait, sur des roches sédimentaires. Il y en a sur Mars, hein, et notamment celles qui ont 3-4 milliards d'années, donc très anciennes, parce que sur Terre à l'époque, il y avait déjà des sortes de formes de vie plus ou moins complexes, d'ailleurs pas forcément archaïques ou primitives, qu'on appelle des stromatolites, qui étaient des sortes de piliers ou de colonnes ou de choux-fleurs, si vous voulez, de bactéries, d'algues, de sédiments. C'est des sandwichs, en fait, qui s'empilent et qui prennent des formes diverses et variées, aussi bien micro que méso ou macroscopique. Donc d'abord, à l'œil nu, j'essaierai de détecter ces espèces de sandwichs. Et puis ensuite, j'échantillonnerai un maximum de roches sédimentaires de cette époque-là, plutôt en fait des sédiments qui se sont déposés en milieu marin mais côtier, pour augmenter en fait mes chances de découverte de ces organismes-là qui existent encore aujourd'hui, hein, en Australie, au nord de l'Australie, il y a encore des stromatolites marines, comme il y a un peu partout sur la planète aussi des stromatolites d'eau douce. Mais je zoomerai d'abord peut-être en milieu marin et puis ensuite, j'utiliserai les techniques de microscopie optique pour essayer de voir, si j'en vois pas à l'œil nu, de voir les mêmes structures en filet ou en ce qu'on appelle algalmate, en tapis algaire, en fait, au microscope, en croisant les doigts pour trouver un fossile martien. Mais je pense que statistiquement, on a plus de chances de trouver des martiens à l'état fossile, finalement, enfin, des formes de vie martiennes, hein, on s'entend bien, à l'état fossile, de par l'histoire de la planète, des formes de vie vivantes actuellement. Hein. On parle souvent d'extraterrestres dans les œuvres de fiction qui vivent en même temps que nous, mais notre temps sur Terre, d'une part, et dans l'univers, est très limité. Et c'est pas parce qu'une forme de vie existerait ailleurs qu'elle soit présente sur sa planète, enfin sur son corps céleste, en même temps que nous. Hein. Ce serait, en termes de probabilité, très très peu justement probable.
Alors, je me tourne maintenant, enfin nous tournons vers le public. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects? Une question ici.
Bonjour. moi, j'ai juste une question. Je ne suis pas du tout un expert et justement, c'est hyper intéressant ce qu'il a raconté depuis tout à l'heure. Je résonne, ça fait bizarre. Je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui pousse les gens à tenter de faire revivre un mammouth, simplement, en fait. Parce que c'est, pour moi, ça me paraît très étrange et je me demande ce qui pousse simplement des scientifiques à avoir cette idée-là et puis à essayer de faire renaître des mammouths, par exemple.
Alors, toutes les motivations, parce qu'il y en a plusieurs.
My understanding of the motivation for the mammoth is actually related to climate change. What's happening in the north, especially in the tundra regions and the taiga regions, is that the permafrost is melting. And as the permafrost melts, it releases vast amounts of greenhouse gases, methane primarily. And the argument is, if you can reintroduce the megafauna onto that landscape, it will actually, by chewing up the top levels of the soil, it will allow the access of cold to get back down into that area and refreeze the permafrost. And I think that's one of the primary motivations for bringing the mammoth, woolly rhinoceros, and various other megafauna species back for the northern regions, to basically rehabilitate the land and reintroduce the permafrost.
Après, il y a le challenge. Le fait de se dire qu'on ne peut pas le faire, donc on va essayer de le faire pour avoir la preuve de concept que c'est faisable. Et tous les éléments qui ont été mis en place pour pouvoir le faire, parce qu'il y aura forcément des erreurs qui vont amener à d'autres conditions pour pouvoir arriver jusqu'au produit final. Et en fait, tout ça va nous donner des outils pour faire autre chose et pour faire avancer la connaissance scientifique, méthodologique, dans le domaine de refaire émerger une nouvelle espèce et pas forcément que le mammouth.
Votre remarque est excellente parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de problèmes éthiques propres à la désextinction. C'est comme le clonage humain. Hein, on est techniquement capable de le faire. Est-ce qu'il faut le faire pour autant? Est-ce qu'on doit passer beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à vouloir absolument refaire vivre une espèce qui a disparu il y a entre 4000, 40, 1000 ans, voire plus? Si on ne reconstitue pas son environnement total autour de cette espèce-là, de nouveau, elle sera sans doute vouée à l'extinction. Donc j'ai envie de dire, des fois, à quoi bon vouloir faire revivre une espèce éteinte si tout de suite derrière elle va s'éteindre à nouveau? C'est la faire revivre pour la mieux tuer une deuxième fois finalement. Bon, il y a des questions éthiques. Le jour où on sera capable de recréer un Homo néandertalensis, on va le mettre où? On va les mettre où? Dans des zoos humains? Donc il faut faire très attention aussi au niveau éthique, au niveau déontologique, à ces problèmes de désextinction, que ce soit le mammouth ou les dinosaures. Il ne faut pas oublier aussi que l'évolution, c'est quand même majoritairement un phénomène irréversible et que si on rembobine, en fait, et ça, Steve Gould, le paléontologue et épistémologue, l'expliquait très bien dans ses livres de vulgarisation scientifique comme La vie est belle, par exemple, ou autre, rembobiner en fait, le cours de l'évolution jusqu'à un temps zéro de l'apparition de la vie sur Terre et puis laisser faire en fait la machinerie évolutive et la sélection naturelle, aujourd'hui vous n'obtiendrez pas du tout en fait le même résultat. L'évolution, c'est un système très complexe, très aléatoire aussi, et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte dans nos efforts de désextinction.
Je crois que nous allons devoir nous interrompre ici sur ces belles paroles. Parce qu'il faut quand même laisser la place aux autres. Si vous souhaitez discuter un peu avec les auteurs et puis bien sûr vous faire dédicacer leurs ouvrages, ils sont, je pense, tous en dédicace maintenant, voilà, à la librairie qui se trouve juste là. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne suite de festivals.